Bonjour et bienvenue dans Et si c'était vrai? Et si c'était vrai, une émission consacrée à l'art magique de Dominique Duvivier. Dominique Duvivier, bonjour, comment allez-vous?
Mais bien, et vous, Lionel?
Mais très très bien.
Bah écoute, c'est bien.
Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que ceux qui nous écoutent aussi, mais a priori, s'ils nous écoutent, c'est qu'ils ont envie de nous retrouver.
Mais oui, ils sont très contents de nous retrouver. Mais nous, pareil.
Exactement. J'ai envie.
D'ailleurs, tiens, tu vois, ça me fait penser,
Oui,
on l'a
Dominique.
jamais dit, mais moi je trouve ça vraiment génial qu'on ait quand même, je ne sais pas combien ils sont, mais enfin ils sont quand même beaucoup, à nous écouter, réécouter, enfin je veux dire, à nous suivre. Tu
Exactement,
vois,
c'est
ça on
vrai.
l'a jamais dit, tu vois, et je trouve que c'est assez dingue, et c'est vraiment super, quoi.
Et vous avez d'autant plus raison. Et je pense que ça peut être souligné qu'à chaque fois, enfin, il n'y a pas une fois où moi, enfin, personne ne me voit,
Ouais.
on n'entend que ma voix ici. Mais à chaque fois que je vais au double fond, il y a toujours quelqu'un pour me dire, et si c'était vrai, merci, etc.
Ah
Alors que
ouais.
finalement, bon. Moi, j'y suis pas pour grand-chose. Je pose des questions, je fais en sorte
Ah mais
que.
oui, mais tu sais que les poser des questions, des fois, c'est même plus important que les réponses. Non,
C'est gentil, Dominique.
non, mais c'est pas faux, hein. Non, mais c'est très important parce que c'est clair. Et ça, moi, je l'ai vu, encore une fois, avec le confinement dont on a parlé il y a quelques émissions, là. C'est pas que les questions qu'on m'a posées sans toi étaient sans intérêt, mais tenir, tu vois, une émission, alors là, en plus, c'était pas forcément 20 minutes, une demi-heure, mais ça pouvait être moins ou ça pouvait être plus, bah, je me suis rendu compte, si je ne le savais pas, bah, que c'est pas évident, quoi, tu vois, parce que comme tu le sais, je crois que je te l'ai déjà dit, moi, tu as vu, je peux être intarissable comme tu me vois, mais si tu ne me poses pas de questions, et je dirais, si tu ne me poses pas de bonnes questions, bah, je n'ai pas grand-chose à dire. Parce que bizarrement, c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas écrit vraiment beaucoup de bouquins. J'ai écrit beaucoup de nouvelles, beaucoup de 2-3 pages. C'est ça, à une époque, c'était facile pour moi d'écrire quelques pages.
Ou des billets.
Ou des billets, voilà, c'est ça. C'est même pas quelques pages, c'est des billets, comme tu as raison complètement. Mais me lancer, tu vois, sur un machin, par exemple, on est en train d'écrire un bouquin avec Bruno Noulet, qui écrit depuis, je crois, 6 ou 7 ans. Il fait une interview comme toi, mais là, c'est pas un podcast, toi, c'est vraiment pour écrire un bouquin. Il m'a dit qu'il avait à peu près 900 à 1000 pages, déjà, mais il en a 300-400 qui sont en gros finis. Hein? Et puis, bah, il n'ose même plus venir parce que à chaque fois, il y en a. Donc, tu vois, à part lui et toi, bah, si tu m'interroges pas, si tu me cuisines pas, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Ma manière de parler, c'est d'inventer des tours et de les faire.
Oui, c'est vrai. Et puis, même que quand on va dîner ensemble de temps en temps, quand il y a un spectacle, on a l'occasion de temps en temps de le faire. Là, on va dîner ensemble juste après la session de podcast ici qui touche bientôt à sa fin pour cette session du 4 juillet 2020. J'en profite pour rappeler la date. C'est vrai qu'on parle de choses et d'autres, mais pas magie en fait,
Non. Non,
du tout.
puis tu as pu remarquer que je suis loin d'être bavard,
Oui,
quoi.
c'est ça, absolument. Tout à fait. Non,
Alors
Dominique.
que là, évidemment, ceux qui m'écoutent que dans les podcasts peuvent se dire, attends, qu'est-ce qu'il raconte? Le mec, il n'arrête pas de ramener sa fraise. Oui, parce que tu me cuisines.
Oui.
Et je suis en confiance aussi. Je sens que tu es pas malveillant. Parce que tu vois, je peux être très désagréable si l'autre, je sens que j'ai un sixième sens quand même assez développé. Le mec, il me pose une question, mais je sens au 3, 4, 5 ou 10e degré que la question est pue. Là, ça va mal se faire, quoi, tu vois. Parce que je le sens arriver avec ses gros sabots, le mec. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a quand même un certain nombre qui ne me parlent pas, parce qu'ils se rendent compte tout de suite que rien qu'avec bonjour, c'est mal barré, quoi, tu vois.
Écoutez, donc du coup, bon, on va poser des questions. J'ai envie de poser des questions sur les techniques, en fait, là, sur cette émission. Je ne prétends pas du tout être maître en technique magique, loin de là, mais je ne sais pas si je peux vous poser cette question aussi directement, Dominique,
Ouais, vas-y.
mais selon vous, quelles sont les... Pour vous, les techniques, quand on débute en magie et un peu plus tard, quand on commence à percevoir ce que requiert l'art magique, quelles sont les techniques que vous pensez être indispensables à maîtriser? Qu'est-ce que vous dites, par exemple, à ce sujet, si vous en parlez, aux élèves de l'école de la magie que vous avez créée avec Adeline? Qu'est-ce que vous leur dites à ce propos, ceux qui débutent au niveau des techniques, j'entends?
Oui. Bah, tu vois, déjà, c'est là où on va creuser un énorme fossé entre les magiciens conservateurs, ceux que j'appelle ainsi, et les autres, qu'on va appeler novateurs. Évidemment, c'est très pas sympa pour les conservateurs, et puis du coup, ça a l'air très valorisant pour les novateurs, mais. Il y a un vrai problème, je trouve déjà de fond, c'est que si tu demandes à un conservateur, en fait, si tu ne sais pas ce que c'est un conservateur, bah tu lui demandes c'est quoi une technique de base, et tu vas voir ce qu'il va te répondre. Pour un conservateur, les techniques de base, c'est saut de coupe, enlevage latéraux, empalmage. Il va peut-être te parler de levée double et de comptage Hammersley, mais c'est peu probable. Ben, moi, je trouve que c'est une erreur fondamentale de croire que les techniques de base, on est bien en train de parler de base, sont saut de coupe, enlevage latéral et empalmage. Bien sûr que ce sont des techniques. Bien sûr qu'il faut les connaître. Mais alors là, pour moi, pas du tout au début. Pour moi, il faut déjà apprendre, si on parle bien sûr de cartes, puisque là, on vient de parler que de cartes, avec empalmage, saut de coupe et empalmage, on parle que de cartes. Bah, faut déjà apprendre à tenir le jeu dans sa main. Je suis désolé, mais c'est quand même ça qui est le plus important. Faut le biseau un peu spécial, tu sais, quand tu tiens ton jeu en position de la donne. Faut apprendre à poser les cartes une par une sur la table et de pouvoir les donner une par une. Et non pas qu'il y en ait 28 qui tombent en même temps, parce que quand tu ne sais pas tenir un jeu, c'est plutôt 28 qui tombent en même temps. Avoir la fourche de la main opposée qui va prendre les cartes pour les poser sur la table, qui va chanfreiner comme il faut, pour pouvoir les poser, si c'est possible, les unes sur les autres, sans que ça fasse un énorme tas disparate, mais qu'elles puissent tenir quasiment les unes sur les autres, en les en donnant une par une. Bah, tu vois, moi, pour moi, ça c'est la base des techniques. Une fois que tu sais tenir ton jeu en position de la donne, et que tu sais les donner une par une, bah, on va peut-être pouvoir t'apprendre à faire une triple coupe, ou une double coupe, de la carte du dessus-dessous, ou d'une carte du dessous-dessus, ce qui est plus difficile dessous-dessus que dessus-dessous, d'ailleurs, pour un débutant. Que celle du dessus-dessous, faut te mettre en biddle, lever légèrement la carte du dessus avec la pulpe d'un bout du pouce du biddle et descendre cette carte dessous, point barre. Par contre, pour la remonter, faut déjà boucler la carte du dessous ou laisser échapper une carte, ce qui n'est pas évident quand tu ne sais pas, et après refaire un break et après faire un bout de swing cut pour reprendre la carte du dessous et la remonter en double coupe.
Ouais, c'est vrai, vous avez raison.
Plus difficile pour un débutant de faire du dessous-dessus que dessus-dessous. Eh bien, quand tu as affaire à un conservateur, déjà tout ça n'existe pas. Puisque lui, il faut déjà qu'on bouffe du saut de coupe et qu'on bouffe de l'empalmage. Tu parles d'un empalmage. Comment tu peux faire un empalmage si tu ne sais pas tenir ton paquet dans la main? Si tu n'as jamais fait une levée double pour t'habituer à mettre un niveau de cartes pour les retourner comme il faut, pour qu'il n'y en ait qu'une. Ah, pour moi, les techniques de base, c'est ce que je viens de commencer de dire. C'est bien sûr, j'ai ajouté la levée double, mais très vite, je vais ajouter ben, la triple coupe si on n'a fait que la double coupe, la triple coupe étant un faux mélange par coupe. La fausse coupe, en une fois que j'avais inventé, moi, avec un mouvement swing cut, pim pim, tu
Clac,
poses et
oui.
pouf,
Avec le
évidemment,
son.
avec le son. Alors que certains ont dit que c'était pas un truc que j'avais trouvé, alors que j'ai popularisé ce truc-là. Et puis après, on commence à pouvoir apprendre à étaler les cartes dans les mains, on commence à pouvoir faire un ruban sur la table, et on va pouvoir commencer aussi à faire des tours, entre guillemets, avec quelques cartes. Donc on va travailler sur le comptage Amsley. On va travailler sur l'étalement Ascanio, on va travailler sur différentes techniques comme ça, et il y en a un certain nombre, là j'ai dit les principales. Et quand on va savoir tout faire à peu près bien, on va pouvoir envisager de peut-être empalmer une carte, on va peut-être envisager de faire un side steal pour pouvoir avoir légèrement une des cartes qui va être décalée, pour qu'on puisse la reprendre en
Oui.
main pour faire une double coupe, une triple coupe, voire un empalmage. Mais si on regarde bien ce que je dis, bah, ça paraît quand même être assez le bon sens de commencer par le b.a.-ba que moi je pense est ce que je viens de dire. Mais empalmage, saut de coupe, qui est un mouvement très difficile, à comprendre le mouvement du saut de coupe est très simple. Mais le faire sans qu'on le voie, sans qu'on l'entende, et alors encore plus, sans qu'on le sente ou qu'on le suppose, bah, je suis désolé, mais moi j'ai vu tellement peu de gens, pour pas dire aucun, capables de me faire un saut de coupe que je ne vois pas, que je ne sens pas et que je ne suppose pas.
Derek Dingle, peut-être.
Dingle faisait à l'époque, avec Howard Schwarzman, les sauts de coupe les plus invisibles que j'ai vus.
Oui.
Mais je vois quand même qu'il s'est passé quelque chose. On parle bien de pas voir. Pas voir, ok. Dingle et Schwarzman, on ne voit pas. Et sûrement que s'il y a ces deux-là, il y en a d'autres, on ne voit pas. Mais qu'on ne suppose pas. Ben là, je suis désolé, faut se lever ultra tôt, là. Parce que pas voir, pas sentir et pas supposer, je suis désolé, mais moi j'ai jamais vu quelqu'un qui m'a fait un saut de coupe que j'ai pas vu, pas senti et pas supposé. Jamais. Donc c'est une technique que j'ai apprise, que je sais faire, alors moins bien que quelqu'un qui en fait à peu près 50 par minute depuis le début de sa vie, alors qu'il a 60 ans, c'est clair, mais je ne crois pas que mon saut de coupe est vraiment mieux que celui que le mec qui fait depuis qu'il est né. Parce que je le vois, je le sens, et alors je le suppose,
Et
et souvent les trois.
pour autant, vous maîtrisez plusieurs techniques de saut de coupe. Vous me l'avez
Oui.
montré, donc je sais
Oui,
de quoi je parle.
je dois faire le saut de coupe Herman, le saut de coupe Jennings. Oui, j'en fais 3-4 des sauts de coupe, bien sûr. Et j'essaie de les mettre dans des contextes où on peut ne pas le voir et ne pas le sentir, mais pas le supposer. Je ne crois pas que j'ai réussi.
Ouais, je comprends.
Tu vois?
Dominique, est-ce que vous pensez qu'avec les quelques 4-5 techniques de base que vous avez décrites, une fois qu'on sait tenir son jeu et qu'on quelque part qu'on fait corps donc du coup avec le jeu, est-ce que vous arrivez à déterminer pour des magiciens qui sont débutants, à dire, malgré le peu de technique que ces personnes-là ont à leur arc, qu'il y a de la promesse. Est-ce que vous
Ah,
arrivez déjà à...
oui, là ça me fait encore revenir à Ricky Jay. On avait, une des fois où on s'est rencontrés, on avait fait de la magie ensemble, il m'avait dit, et ça m'avait honoré grandement à l'époque, il m'avait dit, je pense que toi comme moi, on est capable de déceler le niveau à 90% d'un magicien simplement quand il sort le jeu de son étui qu'il met dans sa main. Point. Pour te dire que c'est pas la peine de faire beaucoup de choses,
Oui, en effet.
tu vois, pour qu'on puisse sentir un peu le potentiel de l'autre. Peut-être que c'est pas une science exacte, hein, mais c'est vrai que en général, quand tu vois quelqu'un qui est plutôt adroit ou très adroit ou ultra adroit, parce qu'il y a toute une histoire d'économie de gestes hein, là-dedans, hein, quand tu as compris un certain nombre de choses, bah, il n'y a pas de doute, hein, tu vas sortir le jeu de l'étui et le mettre dans ta main et poser l'étui avec très peu de mouvements et très peu de mouvements
Les
parasites.
parasites, oui.
Si tu n'as pas travaillé dans ce sens-là, tu as pu travailler et faire plein de choses. Mais n'empêche que tu vas être grognonneux, tu vois, au niveau de ce que tu vas faire. Grognonneux, je veux dire par là, c'est un peu une mélasse, tu sais,
Brouillon.
brouillon et qui est très dommageable, à mon avis, parce que le spectateur, qu'il soit magicien ou spectateur lambda, quand il te regarde, tu es ton propre metteur en scène, ton propre projectionniste, tu sais, au niveau de la poursuite, c'est toi qui donnes le là de ce qu'ils vont regarder, de ce qu'ils vont en déduire. Mais le problème, c'est que si tu as tendance à sortir ton jeu, et puis tu sais, à faire plein de mouvements, parce qu'en fait, ça te rassure, et puis t'as le trac, et puis bon, bah du coup, tu as tes doigts qui bougent à la vitesse de l'éclair. Eh ben, qu'est-ce que tu viens de provoquer chez le spectateur qui va rien dire? Eh ben, tu viens de le perturber. C'est inconscient. Parce que c'est pas parce qu'il te voit faire tous tes mouvements que le mec, il te regarde plus ou qu'il est perturbé. Il n'est pas perturbé. Mais tu viens de bouffer du crédit d'attention. Plus tu es à faire, mais vraiment presque rien. T'es aérien, tu vois, alors sans montrer de dextérité non plus,
Oui.
ce qui n'est pas bon non plus, hein. Mais bon, t'as posé un objet sur la table tellement d'une manière anodine que le mec ne s'est même pas rendu compte que tu l'as fait, quoi. Ben là, t'as 100% de son attention, t'as rien gâché. Et si t'arrives à faire presque pas plus pour créer le premier miracle que tu vas leur faire vivre, bah, t'es le roi du monde. En d'autres termes, moins tu touches, moins tu fais, plus tu es considéré comme miraculeux dans les événements que tu vas créer. Donc c'est exactement l'opposé des cardistries, enfin, de ceux qui font, tu sais, de la fioriture à tout va. Oui, d'un point de vue jonglage, c'est génial. Mais tu viens de te tuer complètement au niveau magique. Parce que si tu es capable de faire les pieds au mur avec ton jeu de cartes, bah, ça sous-entend que tu es capable de retrouver une carte choisie. Donc ça n'a plus aucun intérêt.
B, enfin vraiment, le résultat de
Ah
l'équation est clair.
bah oui, ça, bah, tu penses que je connais mon sujet. Parce que j'ai été tenté de faire, peut-être pas le cardistry, mais de faire de la fioriture. J'ai été tenté de faire des trucs alambiqués techniques, mais technique technicienne, c'est-à-dire la technique qui se voit quelque part, même si je ne le faisais pas exprès, pour montrer une certaine force. Alors que la force, elle est dans rien. Plus tu fais rien, et plus tu produis, plus c'est fort. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre ça, mais du jour où j'ai compris ça, j'ai complètement changé mon fusil d'épaule. Ou comme dirait l'autre, j'ai changé de braquet. Moi, j'ai travaillé mes premières années de magie, de 72, on va dire, à 73, 74, comme un dingue, les sauts de coupe, les enlevages latéraux, les empalmages, enfin tout comme tout le monde. Sauf que je me suis rendu compte assez vite, Dieu merci pour moi, bah que c'était pas bon, quoi. Parce que, encore une fois, même quand je vois Jennings faire, quand tu peux revoir maintenant des vidéos, bah oui, tu vois pas. Parce que il travaille super bien. Enfin, tu sens à mort quand même. Parce que c'est inhérent à la chose. C'est pas qu'il n'est pas bon. Jennings fait partie des meilleurs cartomans du monde. Mais quand le mec, il est obligé de faire des trucs balèzes, et balèzes parce qu'il y a de la manutention, de la manipulation, bah, je suis désolé, mais enfin, ça se voit, quoi. Oui. Et si tu vois pas la chose, bah, tu n'es quand même pas subjugué quand, après coup, il sort d'une poche une carte, quoi. Ouais. Tu l'as pas vu arriver, mais c'est quand même probable qu'il l'avait mis, quoi. Moi, ça, je veux pas. C'est comme ça que, notamment, j'ai fait ma routine, les cartes à la poche, où j'avais vu Marlowe faire un tour avec 4 As et 4 8, j'ai repris les mêmes, exprès, où il faisait je sais pas combien d'empalmages pour arriver à faire passer ses 4 cartes de la main dans ses poches et faire revoyager, tu sais, le contraire.
Oui.
Moi, l'effet m'a séduit et je me suis ingénié à trouver la même chose sans aucun empalmage. Et je crois que j'ai popularisé cette routine et j'en ai vendu des milliers de ça.
C'est...
Et c'est pas facile à faire, hein, quand même. Mais il n'y a pas d'empalmage. Et là, quand je mets une carte dans ma poche, pour ça qu'après j'ai fait avec la veste transparente, il y en a certains qui se sont foutus de ma gueule, mais ils ne se rendent pas compte de la portée de la chose. Et surtout quand je la fais dans le contexte, dans un spectacle, en plus, c'est non seulement très fort, mais très drôle.
Oui.
Mais je peux te dire que quand je mets par exemple le 8 de pique dans ma poche extérieure gauche, bah, ils ont vu le 8 de pique dans ma poche extérieure gauche. Tu vois ? Et après, bah non, c'est l'as de trèfle. Ah bah putain, c'est balèze. Tu vois ce que je veux dire? Parce que il n'y a pas d'autres cartes, quoi.
Oui, oui, oui. Ces éléments-là, dans l'école de la magie, vous êtes amené à en parler ou vous êtes sur autre chose?
Ah ben non, non, pour moi, je suis fidèle à mes conneries, si tu veux. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on parle vraiment. Bon, peut-être qu'on évoque hein, dans le cinquième ou dans le sixième volet. Mais non, on ne parle pas vraiment d'empalmage, on ne parle pas vraiment de saut de coupe, ni d'enlevage latéraux, parce qu'on est dans les 6 premiers volumes,
ouais.
Tout simplement. Mm-hmm. Bien sûr que les gens qu'on a, par exemple, en école, dont on a parlé au début là, de ce podcast, bien sûr que je leur parle des empalmages, bah, tout ça, bien sûr, parce que je veux qu'ils aient du patrimoine. Toi, une session... d'un an, on fait ou des sessions de 3 à 4 mois, ou des sessions d'un an, ou des sessions de 2 ans. Tout dépend de l'élève. Mm-hmm. Hein, de toute façon, ce qu'il a besoin, c'est que s'il fait une session de 6 mois, par exemple, après, il a 2 à 3 000 heures de travail personnel.
Oui.
Hein? Mais je veux qu'il ait du patrimoine.
Oui.
Et là, je leur donne avec les autres profs. Rien qu'en carte, il y a 90 tours.
Oui, en effet.
Avec des techniques dedans. Parce que même s'il n'aura pas au premier degré besoin de toutes ces choses, à tous les autres degrés, il en aura besoin.
Oui.
À un moment de sa vie.
Vous pensez, Dominique, que... alors, j'ai une question peut-être un peu difficile, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut être technicien pour vous, pour être magicien ? Est-ce que les deux vont forcément ensemble ?
Non, je ne pense pas qu'on ait besoin d'être un grand technicien pour
mais
reprendre
c'est votre
un
cas.
Peu les
vous
mots.
Êtes un cartomane
oui.
Reconnu et un inventeur reconnu.
Mais je ne suis pas un grand technicien. Si c'est pas si c'est ça que tu veux dire. Moi, je suis un. Ce que les gens se rendent pas compte, et c'est ça aussi qui amène de l'eau à mon moulin, mais à un point qu'on peut difficilement même imaginer, c'est qu'il y a beaucoup de magiciens, enfin ceux qui m'aiment pas, on va dire, hein, qui pensent que je suis un très mauvais technicien. Alors qu'en fait, ils ne se sont pas rendus compte, parce que justement, ils ne voient pas, ils ne sentent pas, ils ne supposent pas, que ce que je fais est très difficile. Mais comme c'est mes techniques souvent, ma façon de faire, et que ma façon donne l'impression d'une simplicité à toute épreuve, parce que je fais en sorte que, au maximum, ça soit simple à voir
Oui.
et à ressentir et à comprendre. Du coup, on croit que je ne suis pas technicien. Et ceux qui pensent ça, ils sont complètement partis à l'envers. Parce qu'en fait, s'ils essaient de faire un de mes trucs, ils vont voir qu'ils vont se faire chier. Mais, comme en apparence, je ne fais pas grand-chose, on dit, bah, de toute façon, lui, il ne fait pas de trucs difficiles. Tu vois, effectivement, moi, je ne vais pas vraiment, même si j'ai appris, je ne vais pas faire des donnes du milieu, des donnes du dessous, même des donnes en second, j'en fais de temps en temps, mais je vais m'arranger pour.
Détourner la
Oui,
donne en
déjà,
second,
un, ça va être détourné, et deux, je ne vais pas en faire souvent dans une année, parce que je vais avoir un ou deux trucs où je vais avoir besoin d'avoir recours à ce genre de technique. Mais je vais m'arranger pour ne pas en avoir besoin souvent, alors que tu en as plein. Ils vont s'arranger pour s'en servir tout le temps.
Oui, c'est ça,
C'est
la
vraiment ça,
différence.
tu vois. Moi, ça m'arrive de faire des sauts de coupe, ça m'arrive de faire des donnes en second, des donnes, pas du milieu, mais de dessous. Mais rarissimement, parce que je vais m'arranger pour pas avoir besoin de ce genre de technique.
Aman, là-dedans, vous n'avez pas cité
Oui, ben je ne l'ai pas
Aman.
cité parce que là on parle de technique.
Oui.
Et Aman, alors je suis un petit enfant de Aman, moi, parce que Aman, son truc, c'était de faire que des techniques à lui.
Ah oui.
Ben moi, à mon petit niveau, même si encore une fois je peux être décrié pour ça, eh ben la double coupe du vivier, le Donald Move, tout ça c'est des techniques à moi.
Absolument.
Et moi je fais mes techniques. Alors je ne fais pas que mes techniques. Alors qu'Aman faisait que ses techniques. Hein. Quasiment, peut-être qu'il faisait quand même un petit hamslet par-ci par-là, mais dans l'ensemble, c'était que ses techniques. Que ses techniques et que ses effets. Il fait quasiment rien d'un autre confrère. C'était une des particularités et un des génies de Brother John Aman. Et moi, j'ai été un peu sur ces rangs-là. Bien évidemment, à mon petit niveau.
Alors, au-delà de ça, donc je vais poser une question un peu différente. Est-ce qu'il faut alors, je vais poser la question, c'est est-ce qu'il faut être technicien pour être magicien, mais est-ce qu'il faut être technicien pour inventer des tours, à votre avis?
Je pense que oui.
Oui.
C'est comme ça que j'ai inventé un certain nombre de techniques, parce que j'ai pas inventé, je me suis pas dit, tiens, je vais inventer le Donald Move. J'ai inventé le Donald Move parce que j'avais besoin du Donald Move pour faire certaines choses. Et je m'en rends compte encore aujourd'hui que j'ai trouvé 4, 5 ou 6 techniques que j'utilise tout le temps, mais c'est fou à quel point elles peuvent servir dans des contextes différents. Et là encore, si tu veux pas croire que j'ai trouvé le Donald Move ou que c'est une connerie le Donald Move, ça n'a rien à voir avec le cop, tu sais, qui
Oui.
est le truc que tu tiens, où il
Oui.
faut changer la position, mais où tu tiens l'objet, enfin, c'est-à-dire que ça a souvent la carte, mais ça peut être une ou plusieurs, mais tu n'as pas les mêmes possibilités qu'avec le Donald, je suis désolé.
Oui.
Il y en a même certains qui, je vois maintenant, utilisent le Donald sans le nommer,
Oui.
tellement qu'on a décrié mon mouvement que j'utilise à fond, et je peux te dire que quand je suis dans le contexte et que je le fais, bah, ceux qui n'aiment pas ma technique, ils la voient pas. Hein.
Ouais.
Ils la voient pas, ils la supposent pas. Ben, on est dans les trois mots en question là.
Ouais.
Hein.
Et elle donne une grande liberté en fait,
Oui.
contrairement au COP
Bien sûr.
qui est contraignant.
Ah mais attention, on fait des bonnes choses avec le COP. Mais c'est encore une fois, c'est une technique de triche.
Oui, c'est ça.
Alors que le Donald, ce n'est pas une technique de triche, c'est une technique pour faire de la magie ouverte. Mais si on peut me comparer un tout petit peu avec Aman, ce que j'apprécierais forcément, puisque moi c'est un de mes maîtres hein, à penser, bah c'est que j'ai essayé dans mon coin d'inventer des effets et mes effets m'ont amené à trouver des techniques pour réaliser mes effets. Alors que si, et ça je le comprends aisément, si tu es dans la magie classique, bah tu vas pas chercher des effets nouveaux, puisque tu penses même qu'on peut pas en trouver des effets nouveaux. Donc tu vas faire des effets classiques et du coup tu vas prendre les techniques classiques. Et hop, tu es dans la catégorie classique. Tu vois?
Vous savez ce qui n'est pas classique, Dominique?
Ben, c'est que c'est fini.
Ben oui, c'est que c'est fini, mais c'est que cette conversation extrêmement enrichissante, franchement, c'est loin d'être classique. Écoutez, merci Dominique pour ce partage
A pas de quoi.
énorme, pour cette session, donc ces sessions qui se sont étalées sur le 4 juillet. L'air de rien, on a fait 10 émissions. Merci Dominique, et puis pour ceux qui nous écoutent, à très vite. On pense à vous, bien entendu, et puis à bientôt donc.
À très bientôt, j'espère.